On va essayer, comme d'habitude, de commencer à l'heure, ce qui est une qualité, puisque ça permet de se coucher pas trop tard. Donc ce soir, la pipe en vol vous propose, comme annoncé, une conférence sur l'astronomie et le calendrier, mais surtout avec un conférencier de très grande qualité, Jean-Noël Sarraï, que certains d'entre vous ont déjà entendu dans des interventions chez nos collègues et amis de la Pupale à Mariège. Donc, il a toute une histoire qui tourne autour de l'astronomie. Il a été, je crois, président de Savara, du site astronomique de l'Observatoire. Actuellement, il est à la maison de la formation, la maison pour la science à Toulouse. Il a été responsable de...
Responsable pédagogique à la Cité de l'Espace.
Oui, responsable pédagogique à la Cité de l'Espace. Et j'en oublie. Surtout qu'il a publié un livre, et ça c'est dommage, j'ai oublié de demander d'emporter quelques exemplaires, on aurait pu le dédicacer. Un livre qui a d'ailleurs bénéficié du soutien de quelqu'un qu'on connaît bien, surtout dans les nuits des étoiles, je crois qu'il s'appelle Rêve.
Ouais, c'est ça, Hubert Rêve.
Hubert Rêve, il porte bien son nom. Et il porte bien son nom, voilà. Donc la conférence va débuter, vous connaissez tout le monde à peu près notre méthode de fonctionnement. On laisse le conférencier nous présenter son travail, son thème, et puis ensuite au bout de 50 minutes à peu près, 45 minutes si on peut, ou s'il peut, on passera à quelques questions. Voilà. Bonne soirée à tous.
Merci, merci. Oui, un livre. Alors un livre, c'est un bien grand mot. Hein. C'est un livre pédagogique. Alors, vous n'allez pas le feuilleter le soir au lit. Hein. C'est pas un roman. C'est des fiches pour les enseignants, pour les animateurs, pour vulgariser l'astronomie. Voilà, 50 fiches. Effectivement, Hubert Reeves a été sympa de faire la préface. Voilà. Donc moi, je suis en fait enseignant. Enseignant. Et j'ai travaillé pendant 8 ans. Donc comme on vous l'a dit, à la Cité de l'Espace, depuis son ouverture, c'était en 1997, jusqu'en 2006 à peu près. Voilà. À l'heure actuelle, je fais quelques interventions pour la Maison pour la Science, qui s'occupe de la formation des enseignants, aussi bien primaires que secondaires. Demain, je vais passer toute la journée à Montauban pour former des instituts, des professeurs des écoles maintenant. Voilà, sur l'astronomie. Voilà. Et mais en fait, je suis professeur de musique. Voilà. C'est-à-dire que mon principal boulot, à l'heure actuelle, c'est d'enseigner le piano à la fac du Mirail. Alors, on n'est plus la fac du Mirail non plus. Voilà, c'est Jean Jaurès, c'est au courant de tous. Voilà. Donc voilà, je fais ça à l'ESP, c'est-à-dire, c'est l'endroit où on forme les enseignants, donc les futurs profs de musique. Je leur apprends à jouer du piano. Voilà donc les deux cordes que j'ai à mon arc. Alors aujourd'hui, on a décidé comme première intervention l'astronomie des calendriers. Il se trouve qu'à la Pupale, j'ai fait 5 ou 6 interventions déjà. Celle-ci est une des dernières que j'ai faites là-bas. Et en fin de compte, alors avec les événements actuels, ça va avoir quelques résonances bizarres, des fois, vous verrez, parce que les calendriers, je vais surtout m'attarder sur 2 calendriers, qui sont le calendrier chrétien et le calendrier musulman. Voilà, donc on va... C'est pour ça qu'aujourd'hui, je ne suis pas allé à Artigat, parce qu'il paraît qu'il y a des descentes de flics en ce moment. Je préfère venir à Rieux, plutôt. Voilà. C'est vrai que la dernière fois, je l'ai donné à Artigat. Celle-là. Mais il n'y a pas eu de problème. Alors, pour parler de calendrier, en fait, j'ai voulu démarrer par quelque chose d'un peu original, parce qu'il faut trouver une entrée pour avoir un petit truc qui accroche un peu l'auditoire. Donc là, ce qui m'intéresse là-dessus, c'est pas du tout le monsieur qui a 4 membres, ou 8, là, et qui fait partie des arachnides. Je veux parler de cette pièce d'un euro sur laquelle il y a une date. Bon, 2002, tout le monde arrive à lire. Hein. Et 2002, vous savez pourquoi il y a marqué 2002 sur cette pièce? C'est le passage à l'Europe 2002? Je ne crois pas, je crois que c'est un peu avant. D'ailleurs. Hein, c'est un peu avant. Non, c'est que je l'ai prise au hasard. Je l'ai prise au hasard. Par contre, j'ai pris l'italienne parce que je préfère. Voilà, ce beau dessin de Léonard de Vinci qui me plaît bien. Mais pourquoi 2002 et pas 2030? C'est idiot comme question, hein, on dirait là. Hein, ah oui, bon, pourquoi?
Parce que nous sommes en 2015.
Ah, voilà. Donc 2002, ce chiffre veut dire
2002 après les gens.
Voilà, c'est ça. Hein, c'est tout simple ce que je demande là pour l'instant. C'est 2002 après JC. Bon, après Jésus-Christ. Donc ça a un rapport sûrement là avec le calendrier chrétien. Hein, si c'est Jésus-Christ. Très bien. Bon, certain maintenant. Donc on est d'accord. Je vous montre une autre pièce de monnaie. Ça, c'est plus un euro, ça. Ça, c'est un dirham. Un dirham marocain. Alors, justement, c'est lors d'un voyage au Maroc, en regardant mes pièces, que je me suis dit, ben là, voilà, là, j'ai une bonne accroche pour parler des calendriers, parce que ce coup-ci, j'ai deux dates. Si vous regardez bien, hein, il y a 1974 et 1394. Quand je montre ça à des élèves, il y en a qui me disent ben « ça c'est une pièce du Moyen-Âge, 1394 ». Ben oui, hein, sauf qu'il y a 1974 aussi. Hein. Bon, alors, qui m'explique rapidement? Au fond, il y a même un qui redouble au fond. Voilà, alors lequel est le chrétien?
1974.
Voilà, c'est celui qui ressemble à des dates d'aujourd'hui. Hein. C'est parce qu'en fait, c'est une pièce tout à fait contemporaine, ça. Le dirham du Maroc, il ressemble toujours à ça. Donc, effectivement, j'ai deux dates. Donc, deux calendriers sont sur cette pièce, hein, a priori. Le chrétien et le musulman. Ok. Mais ils n'ont pas le même début. Hein. Il y en a un qui a démarré il y a 1974 ans et l'autre 1394 ans. Autrement dit, le calendrier est postérieur, le calendrier musulman a l'air d'être postérieur. Alors on pourrait calculer de combien d'années? On fait quoi? Ben voilà, on va soustraire les deux dates. Et on trouve 580. Donc voilà, je me dis, ben, génial, nous, notre calendrier, il a démarré avec JC, donc il y a maintenant 2015 ans, très bien. Et celui-ci, le calendrier musulman, il a dû démarrer 580 ans après Jésus-Christ. Mais ceux qui ont fait un peu d'histoire, on va dire, mais pas du tout. Le début de l'ère musulmane, c'est pas 580. Alors, il y en a qui savent que c'est 600 et des brouettes. Alors on va voir quelles brouettes. Alors, donc 500, vous retenez quand même 580 pour l'instant. Hein. Pour l'instant, on a que ça à se mettre sous la dent. Hein. On pense que le début du calendrier musulman est en 580 de notre ère, c'est-à-dire l'ère chrétienne. Voilà. C'est la question qu'on peut se poser. Hein. On part de l'an 1 d'ailleurs, parce qu'il n'existe pas d'an 0 dans les calendriers, il faut le savoir. Hein, on passe de 1 à moins 1 si on recule. Hein, il n'y a pas d'an 0. Alors je vous montre un autre dirham, parce que dans mon porte-monnaie, j'en avais des vieux, et puis des plus récents. Là, j'en ai un qui était de 2002. Ouais, c'est marrant, comme l'euro de tout à l'heure. Peut-être pas par hasard que je l'ai pris. Alors. 2002, et j'ai 1423. Mince, parce que la soustraction, là, ça ne fait plus un compte rond. Hein. Ça ne finit pas par zéro, là, a priori. Alors là, on a un problème de plus. On fait la soustraction de ce dirham plus récent. Ça, c'était l'ancien. Le plus récent, ah, mais merde, 579. Ils ont dû se planter, je ne sais pas. Ils ont mal fait leur calcul.
Donc il y a quand même un gros problème là, c'est qu'ils n'ont pas l'air, en plus ces calendriers, d'aller à la même vitesse. Je peux peut-être avoir cette idée-là, faire cette hypothèse. Il y a un décalage d'un an en moins de 30 ans, là, hein, 1974-2002.
Ça recule.
Oui, 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 ça recule. C'est-à-dire que les musulmans nous rattrapent, on dit. Je ne sais pas si ça vous fait peur ce soir, mais... C'est ça que ça veut dire, hein, si, si. Si on est bon en arithmétique. Ils ont gagné un an en moins de 30 ans. Bon. Donc il va falloir quand même expliquer tout ça. Donc pour expliquer tout ça, on va commencer par expliquer notre calendrier chrétien. Et je l'appelle le calendrier solaire chrétien. Parce que vous allez voir qu'il y a deux manières pour les humains de mesurer le temps. Et dans toutes les civilisations, quelle que soit l'époque, quel que soit le lieu géographique, on n'a eu que deux solutions. Soit on mesure le temps avec le soleil qui tourne autour de nous en un jour. C'est ce qu'on voit, hein. C'est ce qu'on voit. Ah, c'est nous qui tournons. On le voit tourner. Moi, je vous parle des tous les anciens, hein, ont vu le soleil tourner autour en un jour. Donc ça, c'est un bon repère déjà pour mesurer le temps. Et ça, tout le monde est d'accord, la journée, on la mesure avec le soleil, quelles que soient les civilisations. Et puis, pour mesurer des plus longues périodes, ben, soit on fait appel à la Lune, parce que la Lune tourne autour de la Terre en à peu près un mois, on va dire. Hein, vous allez voir qu'après, ça va pas être de l'à peu près. Mais là, pour l'instant, pour ne pas vous faire peur de suite, je vais dire à peu près un mois. Et si on veut mesurer des périodes de temps encore plus longues, ben, on fait encore appel au soleil, parce que le soleil, en fait, on le voit faire le tour du ciel. Alors là, c'est aussi le tour des constellations du zodiaque, qu'on appelle ça, en un an. En un an. Ça fait encore une période encore plus grande. Donc, vous allez avoir deux solutions pour faire un calendrier sur le long terme. Soit un calendrier qui tiendra compte uniquement de la Lune et des lunaisons, des phases de la Lune, qui va être en gros avec des périodes de mois. Soit un calendrier qui va être avec le soleil sur une période d'un an. Et vous allez me dire, dans le calendrier solaire, il y a aussi des sous-périodes d'un mois. Ouais, parce qu'en fait, c'est la panique. Hein, vous allez voir que c'est très compliqué de mettre au point des calendriers, parce que la Terre tourne en 24 heures, mais elle ne fait pas un nombre pile de tours sur elle-même pendant qu'elle tourne autour du soleil. Et oui. Et la Lune, pour faire le tour de la Terre, ne le fait pas non plus pendant que la Terre fait un nombre pile de tours sur elle-même. C'est-à-dire qu'on va avoir des virgules partout. Et ces virgules vont casser la tête de toutes les civilisations depuis qu'on se casse la tête sur les calendriers. Et donc on essaie de trouver la moins mauvaise solution. Voilà. Donc il n'y en a pour l'instant aucune d'idéal. Vous allez voir ça, vous aurez compris dans trois quarts d'heure. Voici donc la rotation de la Terre. Alors ça, je vais très vite. Hein. En 24 heures, on est d'accord. Ça, ça s'appelle la rotation, on est d'accord. Elle tourne autour du Soleil en un an, ou 365 jours un quart. On vous a toujours appris ça, je crois, hein, à l'école. Hein. 365 jours un quart, il y a des années bissextiles tous les 4 ans. Donc, 0,25. Et effectivement, on a... Donc les différentes saisons, et puis il y a des dates particulières. Dans un mois, pratiquement, on sera au solstice d'hiver pour l'hémisphère nord. Donc, très bien, un petit rappel, la Terre n'est pas plus près du Soleil en été. Ça c'est juste un petit rappel, parce que tout le monde croit qu'on est plus près du Soleil en été. En fait, pas du tout, on est toujours pratiquement à la même distance, mais la Terre est inclinée sur son axe. Mais ce n'est pas le sujet du jour. Alors, avant de parler du calendrier chrétien, il ne faut pas parler de ce qu'il y a avant JC. Avant JC, il y a les Romains. Et les Romains avaient un calendrier romain. D'accord ? Et leur an 1, E, c'était en moins 753. Voilà, moins 753 de notre ère. Ils avaient 12 mois. 12 mois, et le premier de leur mois était le mois de mars. Pourquoi le mois de mars? Ben, c'est astronomique. C'est parce que c'est en mars qu'on a l'équinoxe de printemps. Hein, le fameux 21 mars. Donc c'est le mois de l'équinoxe et c'est le mois du renouveau. Donc pour les astronomes, on fait que le calendrier astronomique, mars est le mois le plus important. Ensuite, on a avril. Alors, je vous ai mis quelques idées pour l'étymologie des mois. Hein. Mai, qui est dû à la déesse Maya, une déesse de la croissance. Juin, c'est Junon, en fait, l'épouse de Jupiter. Puis après, on a manqué un peu d'idées. Hein. Quintilis, sextilis, septembre, octobre. Et là, tiens, tout d'un coup, ça tombe bien. Septembre, c'est bien 7. Comment ça se fait que nous, on est ce soit notre 9e mois? C'est n'importe quoi. Hein? Et on a laissé faire tout ça. Bon. Donc, septembre, octobre 8, novembre 9, décembre 10. Ben ouais, les Romains n'étaient pas fous. Janvier, ça c'est Janus, le dieu aux deux visages, parce que on a le solstice d'hiver, là, donc il regarde à la fois vers l'année qui est écoulée et vers la prochaine année qui arrive. Janus, c'est le dieu aux deux visages. Et février, qui était le dernier mois, qui était le mois des morts, de la purification, avant de redémarrer une nouvelle année en mars. Voilà donc comment était le calendrier romain. Le début de l'année, qu'on appelle le style. Alors, dans les calendriers, le style, c'est le début du calendrier, le début de l'année, on va dire. Alors que l'ère, c'est le début du calendrier, l'an 1 du calendrier. D'accord ? Donc vous avez deux mots, l'ère et le style, à retenir. Alors, on va faire un point d'astronomie. Je ne vais pas trop vous prendre la tête là, mais il faut bien comprendre quelque chose. Pourquoi le 21 mars est important? La Terre, on a vu, est penchée sur son axe. Elle pointe vers l'étoile polaire. Hein. Et si je projette donc l'axe du pôle vers ici, je vais vers la polaire, l'axe du pôle vers le sud, je vais par là, et je peux prolonger aussi l'équateur dans l'espace, hein, qui est ici en pointillé, c'est l'équateur céleste, et en fin de compte, elle est inclinée par rapport à quoi cette Terre? Mais par rapport à ce plan, qui est à peu près horizontal, là, hein, sur ce schéma, qui est le plan d'orbite de la Terre. D'accord? Et en fin de compte, les deux plans, ce plan d'orbite de la Terre, qu'on appelle le plan de l'écliptique, et ce plan qui est le plan de l'équateur, se coupe le long d'une ligne et en deux points, ici. Les deux cercles se coupent en deux points. Et ces points sont les points d'équinoxe. Voilà. Donc vous avez d'un côté le point gamma, ici, ou le point vernal, on appelle ça, le 21 mars. Et six mois après, au mois de septembre, vous avez l'autre point opposé. Voilà pourquoi donc les astronomes, qui étaient les Grecs, excusez-moi, les Romains, qui étaient bons astronomes, avaient pris le début de leur calendrier, donc le style, en mois de mars. Mais il y a un petit problème. Il y a un petit problème, car on remarque qu'il se décale par rapport à l'équinoxe. Il n'est pas assez précis. Pourquoi il n'est pas assez précis, ce calendrier? Parce qu'ils ont des mois de 29 ou de 31 jours. Ils n'ont pas de mois de 30 jours. Par simple superstition, ils ont horreur des nombres pairs. Donc, alors ça c'est pas très scientifique ça, donc ils vont avoir des mois uniquement de 29 et 31 jours. Du coup, il va falloir mettre des mois intercalaires pour faire le compte juste. Hein, parce que vous avez vu qu'on est à 365, virgule quelque chose. Donc, si on n'est pas très vigilant, ça peut se décaler. Et Jules César, donc juste avant la naissance du Christ, propose de réformer ce calendrier et de le rendre beaucoup plus fiable et sûr. Donc, eh oui, parce qu'à l'époque de Jules César, on a un décalage de 80 jours entre la date réelle de l'équinoxe, d'accord, Et ce qu'on observe, en fait, dans les champs, quand on récolte, quand on sème, on voit bien qu'il y a un décalage qui se fait, et on ne sait pas trop d'où ça vient. Donc, il va demander à un astronome de l'époque, qui s'appelle Sosigène, un grec, d'essayer d'élucider ce petit problème de décalage de 80 jours. L'équinoxe de printemps tombait en juin à l'époque. Ça va pas trop, hein, parce qu'un calendrier, il est très intéressant, surtout pour tout ce qui est agriculture. Il faut savoir quand est-ce qu'on sème, quand est-ce qu'on récolte. Là, ça ne marche pas du tout, et il faut réformer à tout prix. Donc Sosigène, cet astronome grec, va refaire les calculs et va placer l'équinoxe au 25 mars. Je rappelle que les calculs qu'ils faisaient, ils n'ont pas de télescope, hein, ils n'ont pas d'ordinateur. Ce qu'ils ont, c'est un bâton qu'on plante dans le sol, ça s'appelle un gnomon, et on observe les ombres du bâton, très précisément, pendant des jours, des années, et on remarque, comme ça, les points d'équinoxe et les points de solstice, et donc, ils proposent en moins 46, donc, de fixer l'équinoxe au 25 mars. Cette année va durer 445 jours, exceptionnellement. Hein, parce qu'il va falloir rajouter les 80 jours qu'on a perdus. Pour les historiens, c'est un casse-tête, du coup. Selon Sosigène, l'année, donc on appelle l'année tropique, contre 365,25, il arrive à mesurer 0,25 avec son bâton, quand même, c'est pas mal, hein, et pas 365. Bon, parce que 365, toutes les civilisations l'ont trouvé à peu près, mais le 0,25, il fallait quand même se lever de bonne heure. Il va proposer une alternance de 31 et 30 jours, hein, on arrête les bêtises de nombres pairs. Donc, et si on fait nos calculs, ben, il nous restera un mois de 29 jours, parce que si je fais que des 31 et des 30, j'arrive pas à 365. Hein. Donc j'aurai 29 jours qu'on va mettre en février. Pourquoi ? Parce que c'est le dernier mois de leur calendrier, rappelez-vous. Donc vu que c'est le dernier, c'est lui qui se fait ratatiner. Le style, par contre, attention, est placé au 1er janvier. Donc ça vient de Jules. D'accord ? 1er janvier, on arrête le 1er mars. Pourquoi ? Parce qu'au 1er janvier, on avait l'élection des consuls à Rome. Voilà, donc c'est plutôt politique, là, la décision, qu'astronomique. Donc voici le calendrier julien, maintenant, il s'appelle donc le calendrier julien. Le premier mois, c'est janvier. Le deuxième mois, c'est février. D'accord ? Troisième, quatrième, etc. Voilà, et on arrive en décembre, ici, on a 365 jours. Et donc, on propose une année bissextile tous les 4 ans. Et ça, ça existe toujours, de nos jours. Hein. Alors pourquoi on l'appelle Terre, rapidement, bissextile ? Il n'y a pas grand monde qui est au courant. Bissextile, ça veut dire 2 fois 6, on dirait. Hein. En fait, c'est le sixième jour doublé avant les calendes de mars. Les calendes, c'est le premier jour du mois. Donc avant le 1er mars, 6 jours avant, on va doubler ce jour-là, qui est un mois de février. Voilà, donc c'est pas juste qu'on rajoute le 29, hein. C'est qu'on redouble le 22 ou le 23, là. D'accord ? C'est pour ça que c'est bissextile. Donc très bien, Jules César, ben, il y a un petit problème, hein, moins de 44, il se fait assassiner par son fils en plus. Son successeur, c'est Marc-Antoine. Et Marc-Antoine décide de renommer le septième mois en l'honneur de Jules César, qui a réformé le calendrier. C'est pour ça que notre septième mois, ça s'appelle plus Septilis, mais s'appelle Julius ou Juillet. Ça vient de Jules César. Alors maintenant, ça va beaucoup vous plaire, ça. Un des empereurs suivants, Octave, ou l'empereur Auguste, donc il s'est fait appeler Auguste, va dire, moi c'est bien joli, Jules César a son mois, mais moi l'empereur Auguste, je n'aimerais rien avoir le mien. Donc il va dire, ben, le mois qui suit, le huitième mois, va s'appeler Auguste. Auguste qui va donner août. Hein? Augustus, en espagnol. Donc, Il est hors de question aussi que le mois de juillet, qui avait 30 jours, ait plus de jours que son mois, lui, d'août. Je savais que ça allait vous plaire. Voilà pourquoi juillet et août ont 31 jours d'affilée. Pure vanité d'Auguste, d'accord ? Et celui qui va faire les frais, mais c'est toujours le mois de février, parce que vu qu'on en a rajouté un en août, on va toujours en enlever de plus en février, il passe de 29 à 28. On ne demande pas son avis à février. Voilà un peu tout ça, vous voyez, c'est sérieux hein, comme histoire. Les mois romains ne sont pas découpés en semaines. Pourtant, la semaine existait déjà. Hein. Chez les Chaldéens, en Mésopotamie, il y a belle lurette qu'on utilisait la semaine, hein, des semaines des périodes de 7 jours, alors que les Romains utilisent les décades, c'est-à-dire 3 périodes de 10 jours. La semaine sera restaurée en Occident, ou du moins établie en Occident, en 321. Donc il faudra attendre bien après les histoires dont on parle maintenant, par l'empereur Constantin. Pourquoi la semaine est intéressante? Eh bien, elle est astronomique, elle. Parce qu'on a dit tout à l'heure, la Lune tourne à peu près en un mois, et elle présente 4 phases principales, la Lune. On a la nouvelle Lune, on a le premier quartier, la pleine Lune, le dernier quartier, que vous retrouvez d'ailleurs sur vos agendas, on a les petits pictos, là, ces 4 phases. Et donc, effectivement, un mois divisé en 4, ça fait à peu près 4 fois 7, 28. Hein. Même si, on va voir, la Lune ne tourne pas du tout en 28 jours. Rien ne tombe pile, de toute façon. Hein. Donc, c'est pour ça que c'est compliqué. Et puis, il y avait une autre raison pour faire des périodes de 7 jours pour la semaine, c'est que dans le ciel, les anciens ne connaissaient que 7 planètes. Alors, qu'est-ce que c'est que des planètes? Pour les anciens, c'est des astres qui bougent par rapport aux autres. On a toutes les étoiles dans le ciel avec les constellations, la Grande Ourse, les constellations du Zodiac, Orion, tout ça. Ça, on appelle ça la sphère des fixes. Parce que les étoiles ne bougent pas les unes par rapport aux autres, elles tournent toutes en même temps, hein, pendant la journée, la nuit. Et parmi ces constellations, on a 7 astres errants qui se baladent. Et astre errant, en grec, ça se dit planétès. Donc voilà pourquoi on appelle ça des planètes. Mais dans les planètes, vous avez le Soleil et la Lune, qui sont des astres errants. Plus 5 petits points qu'on voit bouger par rapport à toutes les étoiles, qui sont donc Mercure, Vénus, Mars, Jupiter et Saturne, qui sont les 5 planètes actuelles visibles à l'œil nu. Hein, à l'œil nu. Les deux dernières, Uranus et Neptune, il faudra attendre le télescope, le 18e et 19e siècle, pour les trouver. Hein. Donc là, pour les anciens, et jusqu'à l'invention donc, de la lunette et du télescope, donc très récemment, hein, dans l'histoire de l'homme, on a nos 5 planètes qu'on voit à l'œil nu, plus le Soleil et la Lune, ça fait 7 astres. Et du coup, ça fait un astre par jour. Hein. Un astre par jour. Alors, ça, je vais passer parce que ça va nous prendre du temps. Mais vous savez bien que lundi, c'est la Lune. Mardi, c'est Mars. Et vous voyez bien, mercredi, c'est Mercure. Voilà, jeudi, Jupiter. Vendredi, c'est Vénus. Samedi, Saturne. Et dimanche, il y a relâche. Hein, dimanche, c'est le jour du Seigneur, Domingo. Hein, ça a été déjà christianisé ces histoires-là, mais normalement c'est Sunday, c'est le jour du soleil, d'accord? Il y a des langues où on a gardé jusqu'au bout. Donc vous voyez que les 7 jours portent le nom des 7 planètes des anciens, hein. Alors ce calendrier chrétien, on va y arriver quand même, parce que pour l'instant on est chez les Romains là, hein, depuis le début, hein, on n'est pas arrivé chez les chrétiens encore. Alors voilà un chrétien très important pour l'histoire de nos calendriers, le moine Denis le Petit, qui vit donc, vous voyez, juste après la chute de l'Empire romain. Chute de l'Empire romain, 4e siècle de notre ère. Et donc, le moine Denis le Petit propose de rattacher le calendrier à la vie du Christ. Ça, c'est une idée géniale. Si vous voulez prendre un peu le pouvoir, Hein? C'est-à-dire que la manière dont on va compter le temps va être en lien direct avec toute la vie du Christ. Et vu que je n'avais pas fait mon catéchisme, il a fallu que je m'y plonge. Donc on va faire un peu de catéchisme maintenant, pour comprendre un peu ce qui se passe. Parce que toutes nos fêtes, dans le calendrier, il n'y a pas grand monde qui peut m'expliquer exactement ce que c'est. Tout ça donc va retracer la vie de Jésus-Christ. Alors on commence avant qu'il arrive, hein. Ça s'appelle l'Annonciation. L'Annonciation qui est faite à Marie 9 mois avant. Ça vous paraît à premier normal, hein, les 9 mois. 9 mois avant Noël, donc c'est vers le 25 mars, hein, qui correspond bizarrement, à peu près, hein, avec l'équinoxe. Puis on a 9 mois après, il est né le divin enfant, donc naissance de Jésus à Noël, donc 9 mois après, 25 décembre. Très bien. Mais il faut se mettre d'accord.
Alors, il y a des sources historiques pour cette date.
Pour
la naissance de Jésus.
Eh bien justement, vous voyez qu'on n'est pas d'accord. On n'est pas d'accord. Ouais. C'est-à-dire qu'on nous l'a mis 25 décembre, juste avant le début de notre ère, donc. Hein. Hein. C'est avant le 1er janvier de l'an 1, ça. Donc c'est le 25 décembre de l'an moins 1, normalement. Eh bien, maintenant qu'on a refait précisément... Hein, et on a un peu plus de sources historiques, un peu plus sérieuses à l'heure actuelle qu'à l'époque de Denis le Petit. Ben maintenant, on pense que Jésus-Christ n'est pas du tout né à moins 1, mais plutôt à moins 6. Donc ce soir, je vous annonce qu'on n'est pas en 2015, mais qu'on devrait être en 2021. Hein? D'accord? Eh oui. Alors, ça on laisse les historiens c'est trippé. Et alors ensuite, on va parler de pas mal de dates. Ici, nous avons l'épiphanie. L'épiphanie, ça se passe juste après la naissance du Christ, de Jésus. Et donc, il est présenté au roi mage. La fameuse galette des rois. La fameuse étoile des rois mages. Donc ça, normalement, c'est le deuxième dimanche après Noël. Puis, on a Mardi Gras. Si je vous l'ai fait dans le Mardi Gras, c'est 40e jour avant Pâques. Oui, mais qu'est-ce que c'est Pâques ? Les cendres, c'est le début du carême. Ah, donc on fait un carême. Alors les musulmans, ils ont Ramadan, hein, mais nous aussi. Hein, nous, ça s'appelle le carême. Et donc, le début du carême, c'est les cendres. Donc, c'est le mercredi qui suit le Mardi Gras. C'est le lendemain. Mardi Gras, pourquoi ? Parce que vous avez le droit de manger, là. Et vous avez intérêt, parce qu'après, c'est fini. D'accord ? Le carême. Puis, les rameaux, dernier dimanche, avant Pâques. Et le vendredi saint, c'est la mort de Jésus. Normalement, 33 ans après sa naissance. C'est le vendredi avant Pâques. Je n'ai toujours pas dit ce que c'est Pâques. Hein, ça a l'air d'être important, cette date Pâques, là. Hein, pas de vous en parler. Alors, la mort de Jésus, d'après les historiens, c'est même pas 33 ans. Hein, ce serait le vendredi 7 avril 30. La plupart s'accordent sur cette date-là. Plutôt, il y aurait plutôt 36 ans. Hein. Peu importe, ce qui est important, c'est un vendredi. Et Pâques. Et Pâques, c'est la résurrection du Christ. C'est là, hein, qu'on ouvre le tombeau, il n'est plus là. Résurrection du Christ, c'est le premier dimanche après la pleine lune pascale. Hein, tiens donc, on reparle de la lune. On reparle d'astronomie, là, tout d'un coup. Hein. On va voir ce que c'est, cette pleine lune pascale aussi. Puis on a l'ascension, donc la montée du Christ au ciel. Ça se passe 40 jours après Pâques. Vous voyez que cette date de Pâques, elle est encadrée du Mardi Gras, qui est 40 jours avant, hein, qui est le début du carême, et 40 jours après, on a l'ascension, du Christ au ciel. Puis on a Pentecôte. Alors Pentecôte, c'est pas un truc qui monte et qui descend. Hein. C'est pas l'Ariège. Hein. Ça veut pas dire ça du tout d'ailleurs. Pentecôte, c'est-à-dire penta, c'est un rapport avec 5. Hein. C'est en fait le 50e jour après Pâques. Voilà pourquoi ça s'appelle Pentecôte, en rapport avec 5. 50e jour après Pâques, c'est le 7e dimanche après Pâques. C'est la descente de l'Esprit Saint. C'est-à-dire que 10 jours après être monté, il redescend. Et on a une autre date ici, qui n'est pas directement liée à Jésus-Christ, qui est l'Assomption, qui est la montée de la Vierge Marie, donc de sa mère, le 15 août. Mais, je ne sais pas si vous voyez, ça c'est une date fixe. Ça c'est une date fixe. Et peur, je ne dis pas tout le reste. Ça se balade. Hein. C'est-à-dire que toutes les dates que j'ai colorées là sont des dates mobiles. Ça va être joyeux à calculer ça. Hein. Et elles dépendent toutes d'une seule date. C'est quoi? C'est la date de Pâques. Et la date de Pâques, on a dit que c'était le premier dimanche après la pleine lune pascale. Il va falloir qu'on fasse de l'astronomie, là, hein, si on veut s'y retrouver. Alors on explique. Qu'est-ce que c'est que la pleine lune pascale, PLP pour les amateurs? C'est la pleine lune qui suit l'équinoxe de printemps. Et on y revient à cet équinoxe. D'accord? La pleine lune qui suit l'équinoxe de printemps. C'est-à-dire que si vous avez votre équinoxe de printemps qui tombe le 20 mars, ça existe, hein, c'est le 20 ou le 21, si vous avez vu, hein, selon les années. Mais si la pleine lune est le lendemain, Pâques tombe le dimanche qui suivra cette pleine lune. Et si le 21, c'est la pleine lune et c'est un dimanche, ben ça peut tomber dès le 21 mars. Hein, c'est la date la plus tôt pour Pâques dans notre calendrier. Par contre, si la pleine lune, c'était la veille, il faut attendre la pleine lune qui suit, un mois après. C'est pour ça que vous allez retrouver au 18 avril. D'accord? Et voilà pourquoi Pâques, ça peut varier d'un mois. Hein? Avec toutes les dates qu'il y a entre le 21 mars et le 18 avril. Comprenez? Voilà. Donc c'est très compliqué à calculer, surtout à l'avance. Il faut bien connaître les phases de la lune. Alors, j'arrive maintenant à un autre calendrier, toujours chrétien, qui est le calendrier grégorien. Qui savent peut-être qu'en ce moment, on est sous ce régime-là, du calendrier grégorien. Qui c'est Grégoire? C'est un pape, ici, du XVIe siècle, pape Grégoire XIII, qui, comme Jules César, 15 siècles avant, a remarqué qu'il y a à nouveau un décalage. Quand même pénible, hein, parce que sous hygiène, on croyait qu'il avait fait le boulot, eh bien non, il y a encore un décalage, donc il va appeler le sous hygiène de l'époque, qui s'appelle Clavius. Clavius, c'est l'astronome du pape. Et il va lui demander, écoute, tu vas refaire tous les calculs, et il faut comprendre pourquoi on a un décalage, on a un décalage de quelques jours. Alors Clavius, il est encore plus fort que Sosigène, il va rajouter des décimales. C'est vrai qu'il faut s'accrocher. C'est que c'est tout ce qu'on vous a dit à l'école, c'est pas vrai. C'est pas 365 jours, un quart. C'est pas pile. C'est 365,2425. Donc c'est plutôt 0,24 d'ailleurs que 0,25 du coup. Hein. D'accord? Et si vous enlevez tous les 4 ans un jour, ben vous faites comme si c'était 0,25. Mais vu que c'est pas 0,25, mais au bout de quelques années, au bout de quelques siècles, ben y a un décalage qui se fait. Et votre date de l'équinoxe recommence à bouger. Avec vos moissons et vos agriculteurs, ça ne va pas aller. D'accord? Donc, ça vous fait une différence. Alors, ce n'est pas énorme hein, par an. Hein. D'accord? 11 minutes par an. 11 minutes par an. Mais vous allez voir qu'avec les siècles... Alors déjà en 325, Et ils ont le Concile de Nicée, ça s'appelait. Ils ont décalé l'équinoxe du 25 mars au 21 mars. Ils se sont dit, Sosigène a dû se tromper en fixant la date de l'équinoxe. En fait, il ne s'était pas du tout trompé, hein, mais c'est qu'il n'avait pas le virgule 24-25, si vous voulez. Hein. Donc en 325, plus 46 ans, parce que c'était en moins 46 que ça avait eu lieu, l'histoire, hein, je ne sais pas si vous suivez toujours, là. Je multiplie par mon décalage que j'ai par an, effectivement, j'ai 3 jours de décalage. 3 jours. Donc, ils en ont rattrapé 4, là, à peu près. Hein. C'était en 325. Sous le pape Grégoire, on est en 1582. 1582, moins les 325, parce que là, ils avaient quand même remis les boules à zéro, fois toujours le décalage, on a pratiquement 10 jours de décalage. À 10 jours, c'est pas pareil. Hein? 10 jours de décalage, ça fait plus d'une semaine. Et donc, Clavius dit effectivement, mon cher pape, on a 10 jours de décalage et il faut les rattraper. Donc, on va laisser tomber en 1582 le calendrier julien. On va remettre les compteurs à l'heure. Et on va appeler ça le calendrier grégorien. Donc, le jeudi 4 octobre 1582 sera suivi du vendredi 15. Voilà, ah, c'est brutal hein, comme rattrapage. Hein. Ils n'ont pas lissé le truc. Hein. Non, non, là c'est direct. Vous passez du jeudi 4 au vendredi 15. Voilà. Ceux qui sont nés entre-temps, il n'y a pas d'anniversaire cette année-là. Voilà. Et puis, je ne sais pas si les patrons ont payé le mois entier, là, aussi, parce que c'était allé plus vite que prévu. Voilà, comment on a rattrapé les 10 jours. Mais, ce serait trop simple encore. Parce que maintenant, il faut se débrouiller pour faire autre chose. Nos années bissextiles tous les 4 ans, a priori, ça ne marche pas. Hein, vu que c'est pas 1,25. Donc, il faut trouver d'autres règles du jeu pour ne plus que ça arrive, ça. Hein. Qu'on n'ait plus à rattraper régulièrement ces années-là. Donc du coup, on va dire que les années séculaires ne seront bissextiles que si elles sont divisibles par 400. Vous suivez toujours hein? C'est-à-dire que 1900, par exemple, 1900 est divisible par 400? Non. Divisible par 400, c'est 1600, 2000. Hein? 2400. Il faudra attendre un peu. Hein? Voilà. Ça, ce seront des années bissextiles. Mais 1700, 1800, 1900, bien qu'étant divisibles par 4, ne sont pas bissextiles. Pareil pour 2100, 2200, 2300, ils ne seront pas bissextiles. Et ça nous permet d'être plus en accord avec le virgule 24-25. Voilà. Donc vous en faites pas, on ne vous pas 10 jours d'un coup, là, ce coup-ci, on suit l'affaire. Hein? Ça, c'est Clavius qui propose ça. Hein? Voilà, donc on est d'accord. Mais attention, parce que là maintenant, de nos jours, avec nos moyens très perfectionnés, on a affiné quand même le chiffre de Clavius. C'est pas 20,24,25, c'est 24,22. Ah, si on veut être précis, en 2015, on sait maintenant calculer ça de manière très précise, même on a plein de décimales derrière, hein, mais je m'arrête là. Donc, il devrait y avoir un décalage de 3 jours tous les 10 000 ans. Bon, ça ne se voit pas de suite. Hein. Donc, effectivement, ce qu'on fait, c'est que régulièrement, eh bien, on rajoute quelques secondes, des fois. Je ne sais pas si vous entendez, on vous le dit des fois, là. Ça passe inaperçu, hein, que ce n'est pas une grosse info, hein. Pas un scoop énorme. Mais de temps à autre, on joue. Voilà. Ça permet qu'on n'ait pas de décalage dans 10 000 ans. Et alors, là où c'est pas simple, c'est que tout le monde n'a pas voulu changer en même temps. Alors là, pour les historiens, c'est la panique. Hein. Parce que si vous voulez faire des recherches selon les pays, ben vous allez vous manquer 10 jours, ou vous allez devoir en trop, ou en moins. Donc, 1582, ça c'est bon en Italie parce qu'il y a le pape. En Espagne, au Portugal, ça marche aussi. La France, c'est 2 mois après. Hein? Donc il va manquer 10 jours, non pas en octobre, mais en décembre en France. Les Anglais et les Suédois, c'est quand même 2 siècles après. Les Chinois, c'est qu'en 1911. Hein. Les Russes, en 1918, à la Révolution. Les Turcs, en 24. Et, il y en a certains, c'est toujours pas le cas. Chez les orthodoxes, on est toujours au calendrier julien. D'accord ? Et chez les 2200 moines du Mont Athos aussi. Ils n'ont pas décidé de passer au calendrier grégorien. Voilà. Vous voyez donc, pour les historiens, c'est terrible. Il y a une anecdote d'ailleurs assez marrante. C'est qu'en Angleterre, on a un grand savant qui s'appelle Newton, qui est né justement à ce moment-là. Et donc, selon que vous le comptez dans tel calendrier ou dans l'autre, il n'est pas né la même année. Parce qu'il est... Alors, 9h-10. Ah oui, donc c'est fini. Ah oui. Ah oui, non, là, je me suis fait avoir. Bon, alors, donc ça, on ne le voit pas. Ah non. Et non, parce qu'il y a ça, surtout. Voilà, calendrier musulman. Vous l'attendiez tous. Hein. Calendrier musulman, ce coup-ci, j'ai mis la lune, parce qu'eux, on décide de ne pas faire un calendrier basé sur le soleil, mais basé sur la lune. Donc, la lune. Voilà les phases de la lune qui défilent, jour après jour. La pleine lune, et puis après on passe le film à l'envers, le dernier quartier, et les derniers croissants, et ensuite la nouvelle lune. Voilà, ça on appelle ça une lunaison. Je vous ai dit que ça dure un mois. C'est pas un mois. Hein, c'est combien ? 28 jours, on me dit. Tout le monde me dit 28. Hein. Ah, il y en a qui me disent 29.
Environ 28.
Environ. Bon, vous avez compris qu'il va y avoir des virgules. Voilà, donc à peu près, hein, la Lune tourne autour de la Terre, et donc, vu de la Terre, on voit des phases différentes. Ah, 29,53. Donc c'est pas du tout 28. Hein. Hein, 29,53, c'est entre 29 et 30. Là. D'accord ? Voilà votre, ce qu'on appelle la lunaison. 29,53 jours. 29 jours et demi, on arrondit des fois. Hein. Mais là, il faut, vous avez compris qu'il ne faut pas arrondir, sinon ça va avoir. Donc voici, petite animation, c'est pas, où on voit les phases de la Lune tourner en un mois. Vous voyez, aussi on a la date. Hein, on la voit valser en plus. Hein. Voilà, très beau, les phases de la Lune.
Ah oui, on vieillit vite là.
Et alors, je ne sais pas si vous voyez, dans notre calendrier chrétien, quand on marque les phases de la Lune, on pourrait compter combien on a de pleine Lune. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Wow, ça, j'ai pris une année spéciale, une année à 13 pleines lunes. Là, il se passe des choses incroyables ces années-là. Hein? Alors, pourquoi 13 pleines lunes ? Entre 13 pleines lunes, j'ai combien de lunaisons ? Attention, les piquets, les intervalles, on ne se fait pas avoir. J'en ai 12. J'ai 12 lunaisons. D'accord ? 12 lunaisons qui durent combien de temps ? 12 fois 29,53. Il faut faire de l'arithmétique un peu. Hein. 13 pleines lunes, c'est 12 lunaisons, on est d'accord. Ça fait 354,36 jours. Ça fait pas 365, je vous dis, c'est vraiment mal foutu. Hein. Et le mec qui a inventé tout ça, là, qui a fabriqué le système solaire, il aurait quand même pu faire les choses mieux. Hein. Là, c'est mal foutu. C'est-à-dire que par rapport à 365, il manque des jours. Hein? Donc du coup, les musulmans, qu'est-ce qu'ils font ? Eux, ils font un calendrier lunaire. Vu que les mois lunaires durent 29,53 jours, 29 et demi en gros, mais ils vont faire alternativement des mois de 29 jours et des mois de 30 jours, qui fera 29 et demi à la louche. Hein? Donc ça fait 12 mois de 29 ou de 30 jours, qui font donc 354 jours. D'accord ? Et leur année dure 354 jours. On commence à comprendre le décalage de mes pièces du début, là. Ils n'ont pas un calendrier de 365 jours. Parce qu'ils se basent exclusivement sur la Lune. Nous, on se base sur un calendrier solaire, mais qui est lunisolaire. Parce que vous avez vu que nos mois, quand même, ressemblent un peu à des lunaisons. Hein ? 30 et 31, mais c'est pas ça. Ça devrait être 29 et 30.
C'est-à-dire que ce n'était pas les agriculteurs.
Exactement. Voilà, là tu as tout compris. C'est-à-dire que c'est un calendrier qui est surtout religieux.
Le bon sens.
Qui est surtout religieux. Ce n'est pas du tout un calendrier agricole. Et vu que c'est 354,36, ben ils ont aussi l'équivalent des années bissextiles. Eux, tous les 3 ans, ils rajoutent un jour. C'est ça. Vu qu'il manque 0,36. Tous les 3 ans, vous rajoutez un jour. Il y a l'équivalent de notre année bissextile chez les musulmans aussi, tous les 3 ans. J'en arrive. Alors, je prends des risques. Mais c'est pas moi qui l'ai dessiné. C'est eux. Donc, le prophète Mahomet. Le prophète Mahomet, voici ses dates. Il est né en 570 et il est mort en 632. Donc, bien après Jésus-Christ. Qu'est-ce qui s'est passé pour lui ? Il a dû fuir. Il a dû fuir, il a dû quitter la Mecque pour partir à Médine. Cet exode s'appelle l'Hégire. Et l'Hégire, ça a eu lieu exactement le 16 juillet 622. Voilà le début de leur calendrier. Voici l'ère, donc, l'ère du calendrier musulman. Donc, ce n'est pas du tout 580, comme on a vu au début en soustrayant naïvement nos dates, mais c'est 622 et le 16 juillet. Voilà le début de leur calendrier. Bon, ça se passe en Arabie Saoudite. Donc, leur premier de l'an, le premier Muharram, Muharram, c'est l'équivalent de notre 1er janvier à nous, c'est le premier Muharram, c'est le 16 juillet 622 de notre calendrier. Le mois le plus connu pour nous, c'est Ramadan, on connaît, qui est le mois du jeûne chez eux, c'est le 9e mois de leur calendrier, qui en compte 12 aussi. Donc, voilà. Et vous comprenez que Ramadan se décale tous les ans. Vous comprenez maintenant pourquoi ? Parce que par rapport à notre calendrier, ça ne dure pas le même temps. Regardez bien, ici un calendrier qui est à la fois chrétien et musulman. On a 2012-1433. On a ici la date de Ramadan qui commence le 21 juillet. La différence entre les deux calendriers, on soustrait leur durée et on a à peu près 11 jours. Voilà pourquoi tous les ans, le mois de Ramadan se décale de 11 jours. D'accord ? De 11 jours. Mais du coup, ils nous rattrapent de 11 jours tous les ans, vu que leur calendrier est plus court. Vous comprenez ? Où sont les 11 jours de décalage sur notre calendrier ? On a compté les pleines lunes. Mais avant la première pleine lune, il y a des jours là. Et après la dernière pleine lune, j'en ai aussi. Ben, j'ai mis 11 jours, là. D'accord ? Ils sont là. Et donc, tout ceci, c'est QFD. Les musulmans rattrapent les chrétiens d'une année tous les combien, alors, du coup ? Vous ne saviez pas que vous alliez faire autant de maths ce soir. Un peu d'arithmétique. Mais on a dit que c'était 10,88 jours. Donc, il faut diviser notre année par 10,88, vu que tous les ans, ils nous rattrapent de 10,88 jours, et on se rend compte qu'au bout de 33 ans, ils vont gagner un an par rapport à notre calendrier. Et vous voyez pourquoi mes pièces, qui avaient une trentaine d'années d'écart, ont cette année de décalage. Donc, voici mon dirham de 74 et mon dirham de 2002. Donc, effectivement, les deux calendriers ont des durées différentes. Je résume là. Un basé sur le soleil, l'autre sur la lune. Et je terminerai par un petit délire pour attraper les 622 ans de retard. Parce qu'ils sont à la bourre de 622 ans depuis le début. Vu qu'ils rattrapent un an tous les 33 ans, quand est-ce qu'ils nous auront rattrapés ? Il faut faire un petit calcul encore. Mais il faut multiplier 33,57 par 622 ans. Et donc, en l'an 20880, regardez bien, je fais de la fausse monnaie, on aura un dirham comme ça. On aura la même date dans les deux calendriers. D'accord ? Ils ne nous ont pas encore rattrapés, mais ils y travaillent. Voilà. Voilà, et je vais m'arrêter là, parce que c'est 9h. Et je pense que déjà, on a appris pas mal de choses. On va pouvoir poser des questions. Je vous remercie.
Merci beaucoup, Jean-Noël Sarraï. C'était vraiment passionnant ce qu'il nous a présenté et amusant. On va donc, il va y avoir une vingtaine de minutes de questions, les questions que vous avez à lui poser. Ensuite, nous convierons à l'auberge espagnole traditionnelle de l'après-conférence Pupponvol. Je rappelle simplement qu'au mois de janvier, le 4e mercredi, il y aura une conférence. Il n'y a pas de conférence en décembre, au mois de décembre. Donc la prochaine, ce sera au mois de janvier, le 4e mercredi de janvier, où la conférence portera sur Dufy et Renoir, un même destin rhumatismal. Tout un programme. Voilà, je laisse la parole, la réponse à Jean-Noël Sarraï.
Si je l'ai. Question, ça y est.
Une question toute bête. Qu'est-ce qui fait qu'on n'a jamais remis en cause ce calendrier qui est lié à des religions, en fait?
Le nôtre. Ouais. D'autant plus qu'en 1905, il paraît qu'il y a eu quand même la laïcité en France, et c'est vrai qu'on n'est pas allé jusqu'au bout. On n'a pas eu le courage de tout bouleverser à ce point-là. Il y en a qui ont eu le courage. C'est les révolutionnaires. Il y a eu, je ne vous en ai pas parlé, un calendrier révolutionnaire. Ils avaient tout remis à plat. Eux, ils avaient eu vraiment le courage. Ils ont tout changé. Ils ont fait le système métrique, ils ont fait des tas de choses. Génial. Et au niveau du calendrier, ils avaient vraiment remis à plat les choses, parce qu'ils avaient vu que c'était quand même un sacré bazar. Ils ont trouvé qu'il y avait une solution quand même plus sympa qu'une autre. C'était de revenir déjà au style au mois de mars. Ah non, pour eux, excusez-moi, non, pour eux, c'était au mois de septembre. Eux, ils ont pris l'équinoxe, l'autre équinoxe, de septembre. Et puis, ils sont revenus à la décade. Et ils ont pris 3 fois 10 jours. Et tous les mois avaient 30 jours. Ce qui permettait d'avoir toujours un premier du mois avec le même nombre de jours. Change, je veux dire, c'est lundi, le premier, tout le temps. Nous, c'est un bazar. C'est jamais le même jour, le premier. On en est toujours avec notre calepin à la main parce qu'on y sent si bon. Alors, eux, ils avaient fait des mois qui étaient exactement les mêmes. Et puis, à la fin de l'année, on rajoutait 5 jours. Ce qui faisait 365. 12 fois 30, 360. Plus 5 jours de plus. Plus les années bissextiles, des fois, il y avait 6 jours de plus. Et puis voilà, c'était le calendrier révolutionnaire. Ils avaient changé les noms des mois, qui étaient très beaux, en fonction des saisons. Justement. Voilà, donc là, ils respectaient, c'était un calendrier agricole, justement. Ils respectaient bien ça. Mais nous, effectivement, on ne devrait pas, étant un pays laïque, je vais mettre du monde à dos là, mais respecter toutes ces fêtes religieuses. Aucune raison. Aucune.
Absolument.
D'autant plus que, maintenant, on a bien d'autres religions dans notre pays. Et pourquoi eux ne pourraient-ils pas imposer leur jour de congé? D'ailleurs, quand on est enseignant, des fois, il nous manque quelques élèves, parce qu'ils ont leur fête religieuse à eux. Donc voilà, si on veut vraiment une séparation de l'État et de l'Église, on devrait, effectivement, garder le 1er mai, pourquoi pas, c'est pas de souci, le 11 novembre, tout ce que vous voulez, mais toutes ces fêtes religieuses qu'on a vues, elles n'ont pas de droit de cité dans un pays laïque digne de ce nom. Ça, c'est mon avis. Là, il y a du boulot, là. Il y a du boulot. Oui.
C'est pas une question, c'était un commentaire. J'ai visité l'autre jour le musée d'Aurignac et j'ai vu qu'ils ne parlent plus de avant le Christ, mais ils parlent avant le temps présent. Et en situant le temps présent à 1950, qui est, je crois, l'année où on a utilisé le carbone 14. Voilà. Bon, alors, c'est peut-être une façon de...
Je ne savais pas.
Je
ne savais pas.
Oui.
Ben ça, c'est un moyen bien laïque de calculer le temps. Voilà. Effectivement, on ne parle plus de...
Carbone 14.
Oui, carbone 14. Après, le carbone 14 a une demi-vie tellement longue que, bon, 1950 ou 0, ça ne doit pas faire grand-chose de différence. Mais effectivement, oui, on ne devrait pas... Pareil, on ne devrait pas avoir notre calendrier qui démarre avec ce Christ qui est une fausse date, en plus.
Voilà. À cause de ces problèmes, justement, de religion.
Tout à fait.
D'autres questions, remarques?
On n'a pas imaginé de modifier la rotation de la Terre.
C'est vrai que ça serait pas mal. Hein, ça serait pas mal. Alors, il faut savoir quand même que ces chiffres, hein, parce qu'on a dit que tous les 10 000 ans, on va essayer de ne pas se décaler, mais en fait, ces chiffres se décalent parce que la Terre ralentit. Donc, de toute manière, ça va changer, mais sur des millions d'années. Là, hein, c'est-à-dire la Terre ralentit. On sait qu'au temps des dinosaures, il y a 100 millions d'années, la Terre tournait pas 24 heures, mais en 22 heures. Donc, elle a ralenti. Hein. Et tout ça, c'est à cause de la Lune. La Lune nous freine. Hein.
Avec les éoliennes, ça va accélérer.
Ah, c'est pas. Ça dépend dans quel sens tu fais tourner les éoliennes. Si tu tournes dans le bon sens, ça accélère, dans l'autre, ça ralentit. Hein. Et la Lune, d'ailleurs, la Lune, nous, on ralentit, et la Lune s'éloigne, du coup. Tous les ans, on perd la Lune de 3 cm. On ne la perd pas encore de suite, hein, mais 3 cm tous les ans, voilà, c'est le même phénomène. Hein. La Terre ralentit et la Lune s'éloigne.
Vous pouvez nous expliquer ce que c'est au juste que la précession des équinoxes,
ça ressemble à ce que vous voulez. Ah ouais. Alors la précession des équinoxes, je n'en ai pas parlé, hein. Mais effectivement, c'est quelque chose alors qui se passe sur des périodes bien plus grandes que celles dont on vient de parler. Hein, la précession des équinoxes, là, on s'en est pas trop rendu compte encore, là. C'est-à-dire, je vous ai parlé de la Terre qui tourne sur elle-même en un jour, qui tourne autour du Soleil en un an, et il y a un troisième mouvement de la Terre. D'ailleurs, ça, c'est le sujet d'une autre conférence où, du coup, j'aborde l'astrologie, pour la démonter un petit peu, quand même. C'est-à-dire que le troisième mouvement de la Terre fait un mouvement de toupie, en fait. Vous avez déjà vu tourner une toupie? Hein, et elle tourne très vite sur elle-même, mais lentement, son axe fait ça. On appelle ça un cône de précession. Et la Terre fait ça. Alors, attention, hein, le tour se fait en 26 000 ans. Un tour. On ne s'en est pas rendu compte de suite, hein, de ce mouvement-là. Hein, c'est pour ça que les astrologues, ils sont encore à la bourre. Hein. Mais enfin, on le sait quand même depuis les Grecs. Hein. Ça, c'est assez impressionnant. Ce n'est pas avec nos moyens très sophistiqués de nos jours. Hein, c'est un type qui s'appelle Hipparque. Au 3e siècle avant Jésus-Christ, qui a trouvé qu'il y avait un décalage de la polaire, etc. Donc c'est tous les 26 000 ans. Donc sur notre calendrier encore, ça va. Mais il faut en tenir compte, c'est vrai, hein, sinon les saisons peuvent se décaler là aussi. Mais ça, c'est plutôt en astrologie qu'on en parle, quand on veut bien la démonter. Ouais.
Alors, il y a eu des évolutions du climat sur la Terre, etc. Est-ce que là, il y a une évolution du climat qui est en train de se faire due à l'homme et non pas due aux événements naturels? Est-ce que ça peut avoir une incidence, l'évolution du climat, sur le mouvement?
Non, pas sur les mouvements. Pas sur les mouvements. Non, non, non. Non, non. La Terre, quand je vous dis qu'elle ralentit, sa rotation ralentit, c'est des forces gravitationnelles entre la Lune, la Terre et le Soleil, comme les forces de marée, hein, qu'on voit les marées maritimes. Mais en aucun cas, un changement de climat peut influer sur ces vitesses-là. Ça non, elle va continuer à tourner sans problème. D'ailleurs, quand on vous dit qu'il faut sauver la planète, je crois que vous avez tous compris que c'est pas la planète qu'il faut sauver, hein, c'est l'humanité, à la limite, si c'est bien de la sauver. Hein, mais parce que la Terre, elle s'en sortira, il n'y a pas de souci. Hein. Il y a eu X extinctions d'espèces avant nous. Toujours reparti, hein. Il n'y a aucun souci pour la planète. Oui.
Oui, moi j'étais juste une question. Tous ces passages de calendrier des uns aux autres, quand vous disiez qu'on est passé du 7 au 15, chaque pays est passé comme ça, avec un calendrier, concrètement, sur la vie des gens eux-mêmes à ce moment-là, voilà. Ça s'est passé comment? Parce qu'il n'y a pas de JT, la communication.
Oui, ça, oui. Je vois ce que vous voulez dire. Oui. Je vois ce que vous voulez dire. Ce que je veux souligner. J'en profite de cette question, c'est pour vous montrer la vista de Denis le Petit. C'est-à-dire, qu'est-ce qui s'est passé 2000 ans après? Qui a gagné, en fin de compte? Ben, l'Empire chrétien. Vu que, qui a imposé son calendrier à tout le monde, et même aux musulmans, et même aux chinois? C'est quand même nous. Hein, c'est-à-dire qu'on a mis une main énorme. Hein, alors certes, ils ont leur propre calendrier, les chinois ont leur premier de l'an à eux, les musulmans aussi, etc. Mais pour les avions, pour les grosses réunions internationales, pour les trains et tout ça, ben c'est le calendrier chrétien qui a prévalu. Donc, politiquement, c'est une arme énorme, le calendrier. Et ça, il l'avait très bien compris dès le début du Moyen-Âge. Et donc, les gens, ils ont été obligés de prendre le train en marche au fur et à mesure que chaque pays s'est mis à l'heure chrétienne. Quoi, hein. Ils n'ont pas trouvé le choix, en fin de compte. Hein. Sauf, je vous dis, les orthodoxes, voilà, qui, eux, continuent avec le calendrier julien. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Mais en tout cas, c'est important de voir cette hégémonie hein, de l'Empire chrétien sur la Terre entière. Hein.
Oui, là, voilà, c'est ce que je voulais savoir, c'est ça, c'est s'il n'y avait pas eu par exemple, des gros problèmes, finalement, politiques, je ne sais pas, quoi, parce qu'il y a quand même...
Ah, mais il y a eu des... Bien sûr. Bien sûr. Quand je vois en Russie, ça se passe en 1918, c'est pas au hasard, hein. Quand je vois qu'en Turquie, c'est en 1924, c'est Atatürk et tout ça. Bien, voilà, c'est, il faut des gens un peu plus éclairés, tout d'un coup, et plus tolérants pour dire on n'a pas le choix, de toute façon. Maintenant, le monde fonctionne avec ce calendrier. Soit on se met hors jeu, soit on joue la nouvelle règle du jeu. Quoi. Voilà. Donc il faut des types comme ça qui acceptent que... Alors, pas d'abandonner, on a vu, leur système, mais de faire cohabiter les deux.
Mais est-ce qu'on pourrait faire un nouveau calendrier en prenant une autre planète?
Alors, une autre planète. Alors, par contre, un nouveau calendrier, il y a plein de gens qui proposent des calendriers comme un peu les révolutionnaires pour que ce soit plus simple. Hein, et revenir justement à des décades, etc. Il y a des gens qui voudraient réformer le calendrier toujours de nos jours. Hein. Bon, on ne les écoute pas parce que ce serait une sacrée bince. Déjà, le changement d'heure d'été d'hiver, c'est le bordel. Vous comprenez que si on change le calendrier de nos jours, c'est la révolution. Alors qu'il y aurait vraiment un réel intérêt à le faire. Économique aussi, ce serait simple pour s'impliquer ça de manière énorme. Et prendre une autre planète, eh bien, figure-toi qu'il y en a qui l'avaient fait. C'est les Mayas. Les Mayas, ils travaillaient, c'est les seuls. Hein, parce que je vous ai dit qu'en gros, il n'y avait que le cycle de la Lune ou le cycle du Soleil. Mais les Mayas travaillaient aussi avec le cycle de Vénus. Voilà. Donc c'était des très grands cycles comme ça parce qu'ils essayaient de trouver des multiples communs entre les révolutions terrestres et l'évolution vénusienne. D'accord. Et c'est pour ça qu'on vous a dit qu'il y a quelques temps là, c'était quand en 2012 là, c'était la fin du monde là. Hein, on arrivait au bout d'un cycle du calendrier Maya. Mais le calendrier Maya, il est comme tous les calendriers, c'était pas la fin de quelque chose. C'était la fin d'un calendrier qui recommençait ensuite, hein, comme le nôtre. C'est pour ça d'ailleurs qu'il ne s'est rien passé. Voilà. Mais effectivement, les Mayas avaient travaillé, eux, sur le cycle de Vénus. Donc, c'est pas une blague.
Est-ce qu'on sait de quels outils mathématiques ils disposaient et des moyens d'observation? Parce que c'est vachement complexe, ce truc-là.
Alors, ce que je vous ai dit, hein, c'est-à-dire, ils ont un bâton.
Voilà, c'est ça.
Un bâton qui plante. Et puis ensuite, c'est des très grands observateurs. C'est-à-dire que depuis l'Antiquité, déjà, ils n'ont pas la pollution lumineuse qui coupe l'homme contemporain du ciel, hein, et surtout le citadin, quand on voit que tout le monde habite en ville, pratiquement. Heureusement, il y en a qui font de la résistance, je vois. Donc, effectivement, ils connaissaient parfaitement leur ciel. C'est comme ça qu'Hipparque a découvert que l'étoile polaire variait, en fait. Elle bougeait. Que le pôle nord céleste n'avait pas toujours pointé vers Alpha de la Petite Ourse, mais qu'autant des pharaons égyptiens, autant de la construction des pyramides notamment, c'était Alpha du Dragon, donc une étoile d'une autre constellation qui était l'étoile polaire de l'époque. Et donc il a calculé en combien de temps ça se décalait, et c'est lui qui a dit en 26 000 ans il y a un décalage. Alors il n'a pas compris que c'était la Terre qui tournait sur son axe, parce qu'il ne savait pas du tout que la Terre bougeait, hein, mais il a dit il y a un décalage, je ne sais pas à quoi il est dû. Mais il y a un décalage à 26 000 ans. C'était les sacrés observateurs et les sacrés mathématiciens. Ils étaient très forts à la fois en algèbre, comme nous ce soir, là, et puis aussi en géométrie. En géométrie. J'ai une présentation sur l'histoire de l'astronomie chez les Grecs, où vous voyez effectivement une géométrie, mais c'est génial. Avec la géométrie de collège, ils ont réussi à prouver que la Terre était ronde et à mesurer son diamètre, avec des maths de collège. C'est-à-dire, vous êtes avec du Thalès, du Pythagore, point barre. Un peu de trigo, Mais c'est du collège. Hein. Oui, mais c'est la trigo, c'est que c'est collège. Hein.
Collège maîtrisé.
Voilà, c'est ça, c'est ça. C'est-à-dire, dans les programmes, un élève de 3e doit connaître ces trois fonctions de trigo, sinus, cosinus, tangente, voilà, en théorie. Voilà, je veux dire, c'est pas des maths de haut vol. Hein. Et c'est ce qui est génial dans l'astronomie grecque, c'est que c'est des idées simples, géniales, pas du tout compliquées. Voilà. Et qui vous donnent accès à même imaginer que peut-être le système pourrait être héliocentrique. Peut-être que la Terre tournerait autour du Soleil, mais c'est pas Copernic qui l'a trouvé. Il y a un Grec qui l'a trouvé 2000 ans avant lui. Et ouais.
Oui, moi je voulais demander encore, quand il y a eu le séisme au Japon, j'ai entendu dire, mais je pense que c'est quelque... En fait, il y a eu un décalage.
L'axe
de la Terre. Il y a eu un décalage.
Ah. Ouais.
Justement, ça ne s'appose pas dans...
Alors,
sur quelque chose.
Comme on dit, c'est epsilon, hein. C'est-à-dire, c'est rien du tout, c'est un couillem, quoi. Hein? C'est vrai qu'en théorie, il y a eu un petit truc, il y a même eu, peut-être même, vu qu'il y a une énergie énorme dégagée, ben, ça a dû changer la vitesse de rotation de la Terre, mais ça va être d'un milliardième de seconde, donc on n'est même pas capable de le mesurer. En théorie, ça a eu lieu, mais en pratique, on se rend compte de rien. Mais c'est vrai, oui, en théorie, il y a un petit décalage chaque fois qu'on a un séisme. Même qu'un volcan avec des gaz. Hein. Action, ratio. Mais on ne va pas plus vite pour ça dans l'espace. Hein.
Les perturbations du Soleil, ça n'influence pas la rotation de la Terre ?
Non, 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 non. L'influence du Soleil, c'est sa masse, surtout. Hein, ce n'est pas son activité. Hein. C'est la masse du Soleil, gravitationnellement, qui impose à la Terre sa course. Hein. Après, il peut être en très grande activité ou pas du tout, le Soleil, parce qu'il a un cycle de 11 ans. Hein, ça ne change rien sur la rotation de la Terre. Et on pense même sur le climat, ça influence à peine. Hein, la Terre est vraiment un système auto-fermé. Hein, voilà, hein, c'est une entité avec son atmosphère, ses océans. C'est ça qui détermine les climats, pas tellement le Soleil. Ni la Lune. Oui, une dernière question peut-être.
Il semble que quand le christianisme s'est implanté, il a récupéré les anciennes fêtes païennes pour installer les siennes, qui avaient lieu justement au moment des solstices.
Très bien.
Ouais. Ça expliquerait que Noël est au solstice d'hiver le 25 décembre, et la Saint-Jean au solstice d'été le 24 juin. Et que les dates de ces solstices, depuis, ont avancé de 3 jours, est-ce que c'est la précession des équinoxes ?
Non, 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 c'est très bien ce que vous dites, c'est exactement ça. C'est-à-dire que la naissance du Christ, on n'en est pas du tout sûr du jour de la naissance. Autant on sait qu'il est né et qu'il est mort un vendredi, très bien, à l'âge de 33 ou 36 ans. Mais par contre, la naissance, effectivement, on l'a mise très près du 21 décembre. Hein, on ne savait pas très bien où tomber le solstice, parce que c'est lié à cette fête païenne du solstice d'hiver, où le soleil est le plus bas possible dans le ciel à midi, et où quelque part on va avoir une renaissance, le soleil va remonter. Solstice, ça veut dire le soleil s'arrête. Sol stare, hein, en latin. Donc le soleil s'arrête de descendre, et il va remonter ensuite. Et donc symboliquement, effectivement, les chrétiens ont décidé de placer la naissance de leur prophète.
Ils ont récupéré là. Les fêtes païennes.
Bien sûr, tout à fait, tout à fait. Ah, ouais. C'est vrai, et même, je vous dis, si vous faites de la mythologie gréco-romaine, vous allez voir que la Vierge Marie, il y en a eu d'autres Vierges Marie, hein, qui sont tombées enceintes sans, par l'opération du Saint-Esprit. Il y en a eu déjà chez les Grecs et les Romains. Ils n'ont fait que copier ce qui se faisait avant. Hein. Vous avez Danaé, la mère de Persée, elle a été fertilisée par une pluie d'or. Bon, ben, c'est la même histoire, hein. C'est la même histoire.
D'ailleurs, les règles du jeu ont été fixées au concile de Nicée.
Voilà.
Les règles du jeu du christianisme.
Voilà, c'est ça, à ce fameux concile.
Constantin.
Voilà. 325.
Il était plus facile de récupérer, en fait, les, entre guillemets, les mouvements de foule qui existaient déjà pour effectivement imposer ou influencer les gens qui étaient habitués à se déplacer. Ça a été le cas pour tout ce qui était aujourd'hui, ce qu'on appelle aujourd'hui des églises, qui en fait étaient des temples, et tous les temples ont été récupérés.
Pour en faire des églises.
Voilà, ce qu'on appelle aujourd'hui des églises, et tout ce qui n'était pas conforme a été détruit.
Bah, c'est-à-dire qu'ils ont, pas, ils ont été très intelligents. Ils ne sont pas allés complètement. Bah, ils n'ont pas allé en champ frontal quand même
opportuniste,
avec.
Opportuniste.
Voilà, opportuniste. Voilà, voilà. C'est ça. Pour être opportuniste, il faut être intelligent. Je ne mets pas de connotation positive dans le terme intelligent.
Après, sans être polémique, après, il y a quelques aberrations historiques. Par exemple, si l'on veut être très historique.
On a un prof d'histoire, attention, je me suis fait avoir.
Non, mais bon, après.
Si, mais allez-y.
Vous avez Jésus de Nazareth.
Ouais.
Et normalement, Nazareth est une ville qui existe 200 ans après le prétendument.
Ah oui. Oui. Donc encore une aberration de plus. Nazareth n'existait pas à l'époque où Jésus est né.
C'était fort à l'époque.
Eh oui.
C'est
de la préconition.
En anglais, on appelle ça forgery, c'est-à-dire de la création de la fausse monnaie.
Ouais.
Et très souvent, dans les milieux non autorisés, on parle de la forgerie religieuse.
Ah, d'accord. Joli mot. Joli mot.
Parce que le façonnage de la fausse monnaie, enfin, je ne sais pas, anglophile, c'est forgery.
D'accord. Voilà. D'accord. Ce que j'ai fait un peu là. Oui, on voit bien qu'en fait, cette histoire-là, c'est une histoire de pouvoir.
C'est
prendre le pouvoir. Et le calendrier est un très grand outil de prise de pouvoir.
Merci. Vous allez pouvoir continuer à discuter entre vous avec Jean-Noël Sarraï. Nous vous invitons à passer à côté.
Très bien.
Merci beaucoup.
Juste une dernière chose, parce qu'en fait, je vous ai amené un petit truc, parce que je suis plutôt astronome que calendrier, hein, mais il se trouve que, voilà, mon grand-père a inventé un calendrier perpétuel.
Ah bon, ouais.
Et ça s'est vendu il y a quelques années, avant que Internet et l'informatique arrivent, et c'était un moyen ingénieux d'avoir tous les calendriers sur un seul A4. Vous avez tout qui coulisse là-dedans. Et vous pouvez aussi bien avoir les calendriers juliens que grégoriens, les bissextiles que les ordinaires, sur le même calendrier. Voilà, sur le même... Donc c'était en vente il y a quelques années, mais maintenant c'est obsolète, mais c'est une bizarrerie assez intéressante. Voilà, donc je lui ai rendu un peu hommage dans cette petite présentation. Et voilà, et ça c'est une photo de famille. Voilà. J'avais un beau chapeau mexicain à l'époque. Et des cheveux. C'est ça. Voilà, on peut les manger maintenant. Oui.
La création de la coupe en bois, sa deuxième conférence, c'était celle que tu n'as aucun lien de ça, c'était Sarah, qui est venue, mais je sais que tu es critique, et qui est venue nous parler justement de religion, des religions et de la de fait.
Donc, on a le même nom.
Oui,
on a travaillé à un moment donné comme ça, parce qu'elle était un peu trop bien, on va dire, vu qu'on était à Sabra, c'est bien ça.
Je sais plus,
voilà, il y a juste.
Oui.